Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Une nouvelle émission de Med Résistance en ce début d'année 2020. J'en profite pour souhaiter la bonne année à tous nos auditeurs et auditrices, une fois de plus. Et je vais faire un petit bilan de l'actualité aujourd'hui. J'ai intitulé cette émission « Beds are burning ». Parce que, effectivement, en ce moment, ça ne se passe pas très bien dans le monde. Ça a commencé le 2 février avec la mort d'un militaire très important en Iran, qui est mort suite à une intervention américaine sur le territoire irakien. Donc déjà, ça arrivait le lendemain du 1er janvier 2020. Et actuellement, on vit un petit peu sous l'expectative, puisqu'on sait que les partis en présence sont relativement énervés. Et puis surtout, il y a eu cet avion qui s'est écrasé et qui aurait été attaqué par des missiles iraniens, d'après certains, mais on n'est encore sûr de rien. On ne sait pas encore vraiment exactement ce qui s'est passé. Les diagnostics qui ont été faits disent qu'il y aurait eu des photos qui auraient été prises et qui circulent sur Internet, disant qu'on aurait vu un missile attaquer, fondre sur l'avion. Mais on n'est sûr de rien. Donc pour l'instant, on ne peut rien dire de notre côté. Mais cela dit, ça ne permet pas de commencer l'année correctement. Du moins, on a tous un petit peu peur que le conflit, que ça dégénère, que les Américains, qui ont déjà fait preuve de manque de patience, alors que leur ambassade avait été attaquée la veille, toujours sur le territoire irakien, par l'Iran, on a toujours peur qu'il s'énerve et puis que ça dégénère en conflit. Alors même qu'on a des soupçons sur l'Iran, puisque l'Iran avait un projet de retourner à un projet d'armes nucléaires. Donc en ce moment, le contexte international n'est pas vraiment favorable à la paix et on a un petit peu peur. Par ailleurs, en ce début d'année 2020, il s'est passé d'autres choses. La même semaine, la Corée du Nord se retirait des accords des accords nucléaires qu'elle avait passés avec l'Occident. Elle annonçait tout de go qu'elle allait retrouver l'indépendance de sa prise de décision en matière d'armement nucléaire. Donc tout ça, ça n'est pas favorable à un contexte de paix. Et il va donc falloir que l'on trouve, que l'on fasse émerger des solutions sur le plan international pour revenir au calme. Le tout sur fond de conflits plus ou moins larvés entre la Chine et les Amériques, toujours, qui se traduit notamment par quelque chose que j'ai vu ce matin dans le journal qui concerne Taïwan. Donc après Hong Kong, c'est Taïwan qui veut à tout prix, mettre en place une démocratie chez lui. Ça pourrait être une bonne nouvelle, mais on sait la situation politique de ces pays qui ont été nouvellement créés est largement conditionnée aussi par l'activisme américain. Et donc, là aussi, on n'est pas sûr de pouvoir tout de suite assurer un contexte de paix, d'autant plus que la Chine n'est pas forcément favorable à une autonomie totale de Taïwan. Et le gouvernement chinois, qui est un gouvernement communiste, et qui pour certains est un gouvernement, une dictature, surveille très étroitement la situation et dans cette zone géographique. Et on est en droit d'avoir peur aussi également que les Américains ne cherchent à s'en mêler, alors même que, pourtant, les Américains étaient en train de se replier quelque peu sur leur situation politique intérieure. Juste avant, ils avaient, courant décembre, annoncé qu'ils retiraient leurs troupes d'Afghanistan. On avait déjà dit lors d'une émission précédente que cette lacune allait devoir être quelque peu comblée par une intervention, cette fois-ci, de l'Occident et notamment de l'Europe, l'Union européenne, qu'elle semblait nécessaire, mais que c'était quand même une bonne chose que les Américains finissent par retourner à une politique, à la politique qu'ils avaient avant Wilson en 1919, qui avait mis en place, qui avait dressé une liste de 11 points pour la paix dans le monde. On s'en souvient, c'était juste après le conflit mondial de 1914-1918, qui avait fait beaucoup de morts en Europe. Et le président Wilson avait émis une série de directives, et il avait pour cela rompu quelque peu avec la doctrine Monroe, qui est la doctrine d'un autre président américain, qui lui est bien antérieure, et qui disait que les États-Unis devaient s'occuper de l'Amérique, du continent américain et lui seul, et ne pas s'immerger, ne pas intervenir dans les affaires de l'Europe, du continent européen. Or, ça n'a pas été le cas, rien n'a été fait à ce niveau-là. Enfin, ça pardon. En 1919, on rompt avec cette politique-là qui datait de 1823, lorsque James Monroe prononça son discours ce 2 décembre 1823 au Congrès des États-Unis. En 3 points, que je résume très rapidement. Les Amériques du Nord et du Sud ne sont plus ouvertes à la colonisation. Autrement dit, laissez-nous tranquilles sur notre continent. C'est nous qui nous occupons du continent américain. On laisse plus les Européens venir et intervenir. Deuxième point, toute intervention européenne dans les affaires du continent sera perçue comme une menace pour la sécurité et la paix. Troisième point, en contrepartie, les États-Unis n'interviendront jamais dans les affaires européennes. Quand je dis les affaires européennes, c'est que quand même tous ces pays, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, l'Ukraine, ce sont des pays qui sont plus proches de l'Europe que les États-Unis. Et donc il serait logique et légitime que les États-Unis reviennent à cette politique-là, notamment dans un contexte de déficit budgétaire, de remise en question monétaire et financière. Qui voudrait que les États-Unis aient plus intérêt à s'occuper davantage de leurs affaires intérieures et de leur économie, et de faire de la coopération avec l'Amérique du Sud, ça on l'a dit, au lieu d'y mettre en place des dictatures. En 1919, le président Wilson, dont je parlais tout à l'heure, fait le contraire, il rompt avec cette doxa-là, et puis ça ira en augmentant avec l'intervention américaine en 1944, qui conduira au plan Marshall et à une forte intervention des États-Unis dans les affaires de l'Europe. Et à l'époque, que nous dit le président Wilson en 1919, lorsque la conférence de la paix est organisée à Paris, rassemblant tous les pays qui ont été touchés par la guerre de 14-18, dans un contexte où on dit que il faut tout faire pour mettre la paix pour pratiquer, faire la paix dans le monde, et on met en place la Société des Nations, la SDN. Pardon, je me trompe, c'est pas les 14 points, c'est les 11 points, c'est les 14 points de Wilson, hein, pardon. Donc, que nous dit Wilson? Quels sont ces 14 points? Alors, le premier point, c'est il veut des traités de paix ouverts auxquels on a librement abouti, après lesquels il n'y aura ni action ou décision internationale privée d'aucune nature, mais une diplomatie franche et transparente. Donc actuellement, on ne peut pas dire qu'il y ait une diplomatie franche et transparente. Chacun cherche un peu à tirer la couverture à soi. Et il y a plutôt une guerre économique avec la Chine, entre les États-Unis et la Chine. Et ce qui se passe en Iran en ce moment, ce n'est pas vraiment une diplomatie franche et transparente. Petit 2. Deuxième point du président Wilson, une absolue liberté de navigation sur les mers en dehors des eaux territoriales en temps de paix, aussi bien qu'en temps de guerre, sauf si les mers doivent être en partie ou totalement fermées afin de permettre l'application d'alliances internationales. Donc là, c'est pareil, en mer de Chine, on se bat pour avoir le monopole sur la navigation. Les Russes briguent la chose aussi et les Chinois ne seraient pas contents que les États-Unis y soient présents. Donc là aussi, c'est pareil, ce point du président Wilson n'est actuellement pas respecté. Un autre point, le retrait autant que possible de toutes les barrières économiques et l'établissement d'une égalité des conditions de commerce parmi toutes les nations désirant la paix et s'associant pour la maintenir. Là encore, la guerre entre la Chine et les États-Unis, l'embargo sur l'Iran... vont à l'encontre de ce que disait le président Wilson. Attention, je dis, les points du président Wilson sont importants, ils sont, on peut les récupérer, ils font partie d'un patrimoine international sur lequel on ne doit pas, on ne doit pas qu'on devrait, auquel on devrait revenir. Je pense que c'est en reprenant ces 14 points les uns après les autres et en essayant de les maintenir, qu'on devrait pouvoir arriver à terme à un retour à une situation normale et calmer un peu les parties en présence. Dans une de mes émissions précédentes, qui est en podcast sur le site de Radio Galère 88.4, émission MED Résistance, je parlais justement d'élargir sur le plan économique ce fameux G7 où tout le monde s'ennuie, qui rassemble uniquement des puissances occidentales qui ont une économie libérale, et de faire en sorte que la Chine, la Russie et l'Iran puissent en faire partie. Ça calmerait beaucoup les parties en présence, on s'y ennuierait moins et on pourrait prendre davantage de décisions intéressantes pour la paix. Un autre point, des garanties adéquates à donner et à prendre afin que les armements nationaux soient réduits au plus petit point possible, compatible avec la sécurité intérieure. Là, c'est pareil. Sur le plan de l'armement nucléaire, normalement, on devrait en être aujourd'hui à une alliance entre tous les pays qui sont pour un futur démantèlement de l'arme nucléaire, qui puisse faire une dissuasion. Et celle-ci devrait se pratiquer à travers... Une union transatlantique renforcée entre l'Europe et les États-Unis et les pays anglo-saxons, avec comme acteur principal l'OTAN. Un OTAN qui serait gouverné de manière différente, au sein duquel les pays européens, et notamment je pensais à la France et à la Grande-Bretagne, devraient avoir une prise de décision plus libre et plus autonome par rapport aux États-Unis. Cinquième point du président Wilson, un ajustement libre, ouvert, absolument impartial de tous les territoires coloniaux se basant sur le principe qu'en déterminant toutes les questions au sujet de la souveraineté, les intérêts des populations concernées soient autant pris en compte que les revendications équitables du gouvernement dont le titre est à déterminer. Donc là, c'est pareil. Aujourd'hui, on n'est pas en 1918, il n'y a pas eu de guerre, on n'est pas en train de reconstruire des gouvernements, mais si, c'est le cas dans certains pays. Et je pense qu'il devrait y avoir là aussi une remise en question, une remise à plat de l'intérêt de chaque gouvernement, faire en sorte que les intérêts de toutes les populations, y compris les minorités, soient garantis. Le point 6, l'évacuation de tout le territoire russe et les règlements de toutes les questions concernant la Russie, de sorte à assurer la meilleure et plus libre coopération des autres nations du monde, en vue de donner à la Russie toute latitude, sans entrave ni obstacle, de décider en pleine indépendance de son propre développement politique et de son organisation nationale. Donc à l'époque, je rappelle, on était dans le contexte en 1918, il y avait juste eu la révolution de 1917. Et donc là, on se posait beaucoup de questions sur le devenir politique de la Russie. Et on voulait lui assurer un sincère et bienveillant accueil dans la société des nations. C'est ce qu'on souhaite encore aujourd'hui. La Russie est un acteur international important qu'on ne doit pas se mettre à dos. C'est d'ailleurs ce que fait actuellement le président de la République française. Le traitement qui sera accordé à la Russie par ses nations sœurs dans les mois à venir sera la pierre de touche de leur bonne volonté, de leur compréhension des besoins de la Russie, abstraction faite de leur propre intérêt, enfin de leur sympathie intelligente et généreuse. Donc là, c'est pareil, je pense que là aussi, aussi bien avec la Russie qu'avec la Chine ou l'Iran, il faut vraiment bien manœuvrer les choses. La France et le Royaume-Uni ont une place prépondérante à ce niveau-là. Elles ont un rôle important parce que, de par leur histoire, elles ont toujours été habiles sur le plan géopolitique et diplomatique lorsqu'il s'agissait de préserver leur intérêt. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est la paix dans le monde, c'est le respect des minorités et des peuples et le développement économique pour tous. Donc là-dessus, lorsqu'on parle de sympathie intelligente et généreuse et d'empathie, elles ont leur rôle à jouer. Le point 7, la Belgique et le monde entier doivent être évacués et restaurés. Donc là, bon, c'était une phrase que le président Wilson avait dit au sujet de la Belgique en disant qu'il fallait absolument tout faire pour que la Belgique puisse se reconstruire de manière sereine, sans limiter sa souveraineté. Donc là, à ce niveau-là, je lis une phrase qui est très importante. L'une nulle autre acte ne servira comme celui-ci à rétablir la confiance parmi les nations dans les lois qu'elles ont établies et déterminées elles-mêmes pour le gouvernement de leurs relations avec les autres. Sans cet acte curateur, l'entière structure et la validité de la loi internationale est à jamais amputée. Donc, la Belgique qui avait été envahie par l'Allemagne méritait d'être évacuée et restaurée. C'est exactement la même chose aujourd'hui pour la Syrie, par exemple. C'est un pays qui a été entièrement détruit et qui se doit d'être évacué et restauré. Pareil pour d'autres États. Je pense à Donc, je pense à l'Irak, je pense à l'Iran, je pense à l'Afghanistan. Ce sont des États qui méritent qu'on fasse attention à eux, qu'on leur applique ce fameux point 7 des 14 points du président Wilson. À cela près, et là je pense par exemple à l'Afghanistan, que les forces internationales doivent néanmoins être présentes pour aider à remettre la situation en place. Je pense aussi, j'ai une très forte pensée pour l'Afrique subsaharienne. Quand je dis remettre la situation en place, ça veut dire mettre en place les conditions propices à une démocratie, à un retour à l'état de droit, ainsi que les conditions propices à un développement économique. Point 8. Tous les territoires français devraient être libérés, les portions envahies rendues et les torts causés à la France par la Prusse en 1871 concernant l'Alsace-Lorraine devraient être corrigés de telle sorte que la paix soit de nouveau établie dans l'intérêt de tous. Là, c'est pareil. Il faut, et là je pense à ces États qui ont été détruits, notamment à la Syrie. Aujourd'hui, il faut tout faire pour que rapidement ce point 8 soit adopté, soit mis en place de manière concrète en Syrie. Point 9, un réajustement des frontières d'Italie devra être effectué le long de lignes nationales clairement reconnaissables. Là aussi, je pense à la Syrie ou à d'autres pays dont les frontières ont été quelque peu, suite au dernier conflit au Moyen-Orient, sont à discuter, on va dire, sont à discuter autour d'une table. Point 10, au peuple d'Autriche-Hongrie, dont nous désirons voir sauvegarder et assurer la place parmi les nations, devrait être accordée au plus tôt la possibilité d'un développement autonome. Donc là, c'est pareil, même chose à appliquer aux États du Moyen-Orient. Point 11, la Roumanie, la Serbie et le Monténégro devraient être évacués, les territoires occupés devraient être restitués. À la Serbie devrait être assuré un accès à la mer libre et sûr. Les relations des États des Balkans entre eux devraient être déterminées par une entente amicale le long de lignes historiquement établies d'allégeance et de nationalité. Des garanties internationales quant à l'indépendance politique et économique et l'intégrité territoriale des États des Balkans devraient également être introduites. Donc là, c'est pareil, et je pense, j'ai une forte pensée pour l'Ukraine ou d'autres pays qui sont situés dans cette zone du monde. Leur accès à la mer doit être sauvegardé. Et là encore, il y a les mêmes problématiques qu'en 1919 qui reviennent, puisque il y a la Russie qui fait tout pour avoir un accès à la mer. Je pense notamment à l'Ukraine. Et j'en parlerai tout à l'heure, après que nous ayons terminé avec les 14 points du président Wilson. Il y a des choses à régler du côté encore pour assurer la paix en Ukraine. Point 12. Aux régions turques de l'Empire ottoman actuel devrait être assurée la souveraineté et la sécurité. Mais aux autres nations qui sont maintenant sous la domination turque, on devrait garantir une sécurité absolue de vie et la pleine possibilité de se développer d'une façon autonome. Donc là, c'est même chose, hein. Le point parlait du détroit des Dardanelles qui devait rester ouvert en permanence pour permettre le libre passage aux vaisseaux et au commerce de toutes les nations sous garantie internationale. Point 13. Un État polonais indépendant devrait être créé qui inclurait les territoires habités par des populations indiscutablement polonaises auxquelles on devrait assurer un libre accès à la mer et dont l'indépendance politique et économique ainsi que l'intégrité territoriale devraient être garanties par un accord international. Enfin, point 14. Une association générale des nations doit être constituée sous des alliances spécifiques ayant pour objet d'offrir des garanties mutuelles d'indépendance politique et d'intégrité territoriale aux petits comme aux grands États. Là, c'est pareil, c'est la fameuse création de la SDN. Donc, on avait fait la dernière fois une émission sur l'OTAN, en remettant en cause le fait que l'OTAN, on puisse mettre fin à l'OTAN, il ne faut surtout pas le faire. Mais elle peut fonctionner de manière différente que ce qu'elle a toujours fait jusqu'ici. Et cette association, et on peut s'inspirer notamment des principes mis en place dans le cadre de la création de la SDN, parce qu'il y avait des choses très intelligentes sur le plan. À l'époque, on voulait vraiment mettre en place la paix dans le monde. C'était bien avant que les États-Unis ne deviennent trop prépondérants dans les affaires internationales. Voilà. Donc, en ce qui concerne le crash près de Téhéran, je voudrais rappeler que mercredi dernier, un Boeing 737 s'est écrasé peu après son décollage, faisant 176 morts. C'est quelque chose qui a marqué un peu tout le monde, parce que ça a été perçu comme une représailles suite à l'assassinat d'un militaire de l'état-major iranien très important. L'Iran a reconnu samedi 11 janvier sa responsabilité dans le crash de l'avion de la compagnie Ukrainian Airlines, qui a fait 176 morts, notamment beaucoup de Canadiens. L'enquête interne des forces armées a conclu que, de manière regrettable, des missiles lancés par erreur ont provoqué l'écrasement de l'avion ukrainien et la mort de 176 innocents, a écrit sur Twitter le président iranien Hassan Rouhani, déplorant une grande tragédie et une erreur impardonnable que son pays regrettait profondément. Il a ajouté que les enquêtes se poursuivaient pour identifier et traduire en justice les responsables. Donc lui, il n'a pas un langage de guerre, il essaye de calmer les choses. Le commandant de la branche aérospatiale des gardiens de la Révolution a déclaré samedi endosser la responsabilité totale de cette catastrophe. J'aurais préféré mourir plutôt que d'assister à un tel accident, a ajouté le général de brigade Amir Ali Ajizadeh. L'opérateur de missiles qui a abattu le Boeing a fait feu sans pouvoir obtenir la confirmation d'un ordre de tir à cause d'un brouillage télécom, a affirmé le général iranien. Le soldat aurait pris l'avion pour un missile de croisière. Il a eu 10 secondes pour décider, a-t-il dit. Nous attendons de l'Iran que les coupables soient traduits en justice, le paiement de compensation et le retour des corps des victimes, a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Facebook. 11 ressortissants de son pays, dont les 9 membres d'équipage, figurent parmi les victimes qui sont pour la majorité des Iraniens ou des Canadiens d'origine iranienne. Voilà, l'enquête va se poursuivre en donnant un accès total aux spécialistes de Kiev dépêchés en Iran. Il y aurait une guerre psychologique, puisque Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, dit que Washington porte aussi une part de responsabilité dans le drame. Une erreur humaine en des temps de crise causé par l'aventurisme américain a mené au désastre, a-t-il commenté sur Twitter. L'accident est survenu mercredi 8 janvier au matin, alors que Téhéran était en état d'alerte maximale par crainte des représailles de l'armée américaine. Quelques heures plus tôt, l'Iran avait tiré des missiles contre deux bases hébergeant des soldats américains en Irak pour venger l'assassinat du général Qassem Soleimani par une frappe de drone américaine à Bagdad le 3 janvier. Quelque part, ça a un peu gelé le conflit qui est en train de s'amorcer, mais il y a eu beaucoup de morts. Donc, il faut espérer que les choses vont se calmer et qu'il ne va pas y en avoir davantage. Là, je lisais un extrait du journal Le Monde qui est paru, samedi 11 janvier à 5h24 sur Internet par Hélène Salon. Donc, je disais, je vais intituler mon émission « Beds are burning » parce qu'il y a d'autres choses qui se passent dans le monde qui sont un petit peu conflictuelles, qui peuvent porter à conflit. Et c'est pour ça que, comme un espoir de, un message d'espoir de paix, je citais les 14 points du président Wilson. À une époque où les États-Unis intervenaient, mais dans un but de paix et non pas dans, dans un but d'hégémonie, restant plus ou moins rompant avec... La coutume Monroe qui datait du 19e siècle, mais en restant quand même fidèle à une volonté de faire des États-Unis quelque part un arbitre qui n'était pas trop interventionniste, il donnait des conseils simplement. C'est pour ça que j'ai cité ces 14 points et je pense que je vais les citer encore dans d'autres émissions parce qu'ils sont importants. La SDN aussi. Je voulais aussi parler du conflit ukrainien qui n'en est pas à son terme, même s'il n'y a pas de guerre en ce moment, même s'il n'y a pas d'attaque. Je le ferai après que nous ayons passé une chanson en hommage à ces 30 morts qui sont partis en Australie suite à un incendie, 100 000 km² partis en fumée. Ces derniers jours, ça faisait la une du monde le vendredi 10 janvier. Je vais donc passer Beds Are Burning d'un groupe australien très connu, Midnight Oil.
Lives and breathes in 45 degrees.
Voilà, c'était Midnight Oil, Beds Are Burning, quelque chose d'assez, on va dire, entre guillemets, very famous song qui est sorti dans les années 80 et qui est par un très bon groupe, un très bon groupe australien, mais un groupe australien qui, quelque part, faut bien le reconnaître, avec quand même une certaine capacité d'anticipation. Quelque part, c'était des visionnaires, puisque la forêt australienne a brûlé. Des centaines de millions d'animaux disparus, une trentaine de morts, 100 000 km² partis en fumée. Les autorités sont dépassées par les incendies que rien n'arrête depuis 3 mois. Et c'est qu'aujourd'hui que ça fait la une. Du journal, c'est que aujourd'hui et récemment que ça fait la une de nos journaux chez nous, alors que jusqu'ici on en parlait, mais très peu. Donc il y a eu 30 morts, la population est sous le choc, une véritable catastrophe sur le plan écologique pour les arbres, pour la flore, et puis aussi pour la faune, puisque des dizaines d'espèces sont déjà au bord de l'extinction, et beaucoup qui restaient sont mortes. Le cacatoès de Latam, la souris marsupiale de l'île kangourou, le potoroux à longs pieds, le méliphage régent, un petit passereau au plumage brillant noir et jaune, la souris de la rivière Hastings. Les incendies qui ravagent l'Australie depuis septembre dernier risquent de porter le coup de grâce à ces animaux vulnérables et à de nombreuses autres espèces uniques au monde. Ces derniers jours, les images émouvantes de koalas brûlés, les carcasses calcinées de kangourous, les terres rasées et noircies à perte de vue ont suscité l'effroi dans le reste du monde. En Australie, la communauté scientifique redoute aujourd'hui une dévastation de très grande ampleur. La situation est catastrophique, indique Euan Ritchie, spécialiste de la faune sauvage à l'université Deakin à Melbourne. Des milliards de plantes et d'animaux ont déjà disparu. De nombreux autres mourront après les feux. Même les animaux qui parviennent à s'enfuir, comme les oiseaux, seront affectés plus tard par la perte de leur habitat, de leur nid et de leur nourriture. D'autres, comme les reptiles et les petits mammifères, seront exposés à la prédation des renards et chats sauvages. Quant aux plantes, elles vont aussi souffrir parce que leurs pollinisateurs, insectes et chauves-souris, ont été décimés dans certaines régions. D'autres problèmes vont bientôt surgir, l'érosion des sols et la pollution des eaux par les cendres. Plus de 10 millions d'hectares de forêts tempérées et tropicales, de bois et de végétation alpine sont déjà partis en fumée. Or, l'Australie recèle un trésor planétaire. Elle est l'un des 17 pays distingués par la communauté internationale pour la richesse de sa biodiversité. La plupart de ces espèces sont endémiques, ce qui signifie qu'elles n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Le pays abrite aussi plus de 300 espèces de mammifères indigènes, dont le wombat, le coca, l'échidné et le diable de Tasmanie. Avec près de 5 millions d'hectares brûlés, la Nouvelle-Galles du Sud est particulièrement touchée. C'est dans cet état, à l'ouest de Sydney, que s'étendent les montagnes bleues, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO pour la variété de leur flore, dont de nombreuses espèces d'eucalyptus, ainsi que le très rare pin de Wollemi, considéré comme un fossile vivant. La végétation y est toutefois plutôt adaptée au feu et a le potentiel de se régénérer assez rapidement, assure Mauricio Rossetto, chercheur au Jardin botanique royal de Sydney. La situation est plus inquiétante dans les forêts humides du Gondwana, plus au nord. La réserve nationale de Nightcap, également classée par l'UNESCO, abrite par exemple une diversité de vie extraordinaire. L'universitaire y a observé jusqu'à 100 espèces d'arbres par 1000 mètres carrés. On y trouve aussi une multitude d'insectes, des escargots, une grenouille rare de moins de 2 cm, Asa darlingtoni, qui pourrait avoir été rayée de la carte. La raison pour laquelle ces forêts humides sont si riches est qu'elles ont été très préservées des incendies pendant longtemps, indique le chercheur. La régénération de la végétation prendra ici sans doute des décennies, ajoute-t-il, à condition que le rythme des feux ne s'intensifie pas. Pour des raisons de sécurité, les scientifiques n'ont pas encore eu accès aux sites qu'ils étudient. Pour évaluer l'étendue des dommages, ils ne pourront le faire qu'une fois les incendies éteints, après le début de la saison des pluies. En extrapolant des données sur l'impact de la déforestation sur la vie sauvage, un chercheur de l'université de Sydney a chiffré 1 milliard de nombres d'oiseaux, mammifères et reptiles tués directement ou indirectement par les feux, rien que dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Une estimation à minima, précise-t-il dans son communiqué. Les scientifiques pensent qu'entre 20 et 100 espèces se seront rapprochées de l'extinction après le passage des feux. Beaucoup étaient fragilisées par d'autres menaces, comme la perte d'habitat et les espèces invasives. Les plus fragiles sont celles qui évoluent sur de tout petits territoires. Symbole de l'Australie, le koala était déjà considéré comme vulnérable en raison des pressions exercées sur les forêts dont il dépend. Les autorités australiennes estiment que 30% d'entre eux ont péri dans les flammes dans l'est du pays, soit environ 8400 marsupiaux. Selon le WWF, cela a le potentiel d'accélérer leur extinction à l'état sauvage dans l'est de l'Australie, qui pourrait intervenir dès 2050. Donc ce koala, qui est un des animaux symboliques de l'Australie, est en menace de disparition et on est en droit de se poser des questions puisqu'il y a eu quand même aussi cet été les incendies très graves au Brésil, dans la forêt amazonienne. Et donc on est en droit de se poser beaucoup de questions sur l'avenir de notre écosystème et de son équilibre. Je citais ici un article de Delphine Chaillet, du Figaro, du 10 janvier 2020. Le Premier ministre australien est dépassé par la catastrophe et il y a beaucoup de choses qui devaient se faire en Australie qui ne vont pas pouvoir se faire à cause de ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que j'en parle. Autre division, autre chose difficile sur notre contexte d'actualité en ce moment, je voudrais citer ce qui s'est passé en Ukraine, puisque ça c'est un petit peu plus ancien, c'était il y a 15 jours déjà que ça a commencé. Il y a eu un échange de prisonniers entre la capitale du Donbass entre l'Ukraine et le Donbass. Je rappelle que le Donbass est une province de l'est de l'Ukraine qui est pro-russe et qui avait eu il y avait eu la révolution de Maïdan en Ukraine lors de laquelle des activistes pro-russes avaient tiré et tué des gens. Donc ces gens-là avaient été faits prisonniers par l'Ukraine et puis en échange, il y a 76 Ukrainiens qui étaient emprisonnés au Donbass. Il y a eu un échange de prisonniers. J'ai des remarques à faire dessus, sur la manière dont ça s'est réglé. Je pense que, parce que beaucoup de journaux disent que il y a derrière une manipulation de la Russie qui voudrait que le Donbass, qu'on ait manipulé les choses et qu'on ait fait cet échange de prisonniers pour que les prisonniers de l'Est, du Donbass, n'aient pas à être jugés pour les crimes de guerre qu'ils ont commis. Parce qu'effectivement, le Donbass ne va certainement pas les juger pour crimes de guerre. Et donc ça choque beaucoup de gens qui ne sont pas contents, qui ont perdu des amis ou des proches pendant la révolution de Maïdan. Et donc, ça va encore davantage diviser les partis en présence en Ukraine. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait, dans ce cadre-là, que les autorités internationales interviennent pour faire en sorte que le conflit se règle de manière un petit peu plus intelligente. Et que, parce que normalement, les crimes de guerre, je pense notamment récemment à la possibilité qui avait été évoquée d'asseoir les usines françaises Lafarge en justice devant un tribunal international spécial, peut-être, pour crimes contre l'humanité. Bon, on y a renoncé, mais ça avait été évoqué. Ces pro-russes, ces Ukrainiens pro-russes, qui ont assassiné la population pendant la révolution de Maïdan, mériteraient eux aussi d'être jugés pour crimes de guerre, mais pas par l'Ukraine ni par le Donbass lui-même, mais par un tribunal international. Ça déplacerait un petit peu le conflit, ça déplacerait carrément les parties en présence, ce serait ni les Ukraines, les pro-ukrainiens, ni les pro-russes qui procéderaient au jugement, mais le tribunal international en question, cela même étant ces prisonniers pro-russes étant en résidence, assignés à résidence au Donbass, donc chez eux. C'est du ressort de la communauté internationale de juger des crimes de guerre, et je ne comprends pas pourquoi la communauté internationale n'anticipe pas, parce qu'après, les forces en présence vont finir par s'énerver, et donc là, c'est à nous de prendre les choses en main et de demander à juger ces crimes de guerre, ne pas juger ni l'Ukraine ni le Donbass, mais ces criminels en particulier. Donc on ne devrait pas... Dans ce contexte-là, si la communauté internationale intervenait pour exiger que les prisonniers soient jugés pour crimes de guerre, on n'y aurait absolument pas lieu d'accuser cet échange, de diviser encore davantage la partie ukrainienne, car quels que soient les responsables, ils se ressortiraient d'une juridiction extérieure. Donc, pas de question qu'ils échappent à la justice, ça c'est pour que justice soit faite. On pourrait créer un tribunal spécial, comme il y en a eu d'autres, hein. Il y en a eu d'autres pour d'autres conflits, un tribunal spécial révolution de Maïdan à caractère international. On pourrait ainsi répondre aux mécontents qui veulent que cet échange soit une tactique pour diviser les Ukrainiens entre eux, opposant ceux qui s'opposent à la révolution et ceux qui redoutent l'impunité. Si le Donbass veut être russophone avant tout, pourquoi ne pas le contenter, et c'est ce que j'ai déjà dit dans plusieurs émissions, en faisant de cette région un territoire à binationalité, un nouveau instrument du droit international que je propose dans mon livre « L'Europe de l'Atlantique à l'Oural ». Ces instruments du droit international pourraient beaucoup contribuer à ce qu'il y ait une doxa de paix dans le monde. La question de la gouvernance doit être clarifiée pour Donetsk. Pourquoi pas un organe indépendant et autonome au sein d'un ensemble russo-ukrainien reconnu comme tel, un pays interfrontière à double nationalité. Dans ce cadre, tout le monde y gagnerait, russe comme ukrainien. Le Donbass resterait partie prenante de l'Ukraine, mais jouirait d'une double nationalité. Ce serait une des premières zones tampons du monde, un de ces territoires tournés vers différentes identités et nationalités. Côté ressources naturelles ou zones géopolitiquement sensibles, les Russes et les Ukrainiens pourraient envisager un partage des richesses qui profite aux deux pays. Une assemblée régionale consultative et conciliatrice, que j'appelle les ARC, pourrait assurer la double gouvernance et prendre des décisions de manière démocratique pour ce qui ressort de son territoire, avec l'accord respectif des deux États, Russie et Ukraine. Juste pour ce territoire-là, les doléances respectives aux deux États pourraient par ce biais remonter au gouvernement ou assemblée des deux États en question. Ça ferait de cette zone de l'Ukraine une zone tampon qui permettrait justement d'assumer ce caractère binational de l'Ukraine qui est à la fois porté vers la Russie et vers l'Europe. Le Donbass pourrait ainsi profiter de cette mésaventure pour demander cette semi-autonomie en échange d'une mise sous surveillance des prisonniers coupables de crimes de guerre pendant la révolution de Maïdan. On pourrait leur demander effectivement d'assigner à résidence ces prisonniers-là sans qu'ils s'énervent, en leur promettant qu'en échange, ils pourraient accéder à cette semi-autonomie qui leur permet d'être à la fois russes et ukrainiens. Ainsi, ils seraient contentés dans leur singularité, et c'est en maintenant le bâton ainsi brandi pour avoir un paradigme de paix et non pas un paradigme d'impunité, puisque je le rappelle, et c'est ce que dit toujours Amnesty International depuis des décennies, l'impunité, ce n'est pas quelque chose de bien. C'est ce qui, au bout d'un moment, contribue à... Il y a des gens qui se croient tout permis, d'autres qui croient qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Il ne faut pas... C'est pour ça que j'ai été scandalisée dans le fait que l'entreprise Lafarge ne soit pas... ne comparaisse pas pour crime contre l'humanité, parce que je pense que l'impunité, c'est la pire des choses. C'est ce qui conduit justement à ce qu'il y ait des gens qui se croient tout permis, il y a des gens qui ne devraient pas être en liberté, qui continuent à courir et à faire ce qu'ils veulent. Donc ça, ce n'est pas normal. Donc en ce moment, l'impunité règne sur Terre. En tant que citoyens internationaux, on est en droit de nous demander pourquoi les tribunaux compétents change d'avis comme ça d'un coup, alors qu'il est question d'attaquer quelqu'un pour un crime de guerre ou pour crime contre l'humanité. On se demande ce qui se passe réellement dans les alcôves. Comme le dit, pour en revenir à l'Ukraine, et le Figaro disait quelque chose de très intéressant dans son édition du 30 décembre 2019, qui est très récente, tout le monde connaît le seul deal acceptable par les deux parties, Russie et Ukraine, l'amnistie générale, l'autonomie culturelle pour le Donbass, c'est ce que je disais, le déploiement des gardes-frontières ukrainiens. C'est bien ce que je propose ici. Même chose pour la Crimée, il faudrait trouver un compromis équitable pour que les fruits économiques de cette dernière profitent aux deux parties. Et je pense notamment aux droits de passage russes spécifiques, avec un accès aux ports privilégiés, en échange de sa protection, de son gaz et de ses implantations d'entreprises. Si on autorisait ce droit de passage russe, ça calmerait beaucoup les choses. Mais en échange, on pourrait demander quelque chose. On pourrait demander à ce que la Crimée reste ukrainienne. Voilà. La Crimée pourrait rester ukrainienne, mais peut-être que si elle l'acceptait, si elle le demandait, elle pourrait elle aussi bénéficier d'un statut de binationalité. Mais surtout, la première chose à faire, c'est qu'elle exige une protection russe, le gaz russe et l'implantation et des accords d'implantation d'entreprise avec la Russie, peut-être avec la Russie, dans un contexte de route de la soie chinoise, de leur implantation du moins, avec en échange un droit de passage russe sur et un accès au port qui serait privilégié pour les Russes. Ça serait une manière beaucoup plus intelligente de faire les choses correctement. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre ? Eh bien, les conflits autour des retraites se durcissent. On a vu qu'à Paris, il y a eu ce jeudi dernier, ainsi que ce samedi 11 décembre, des altercations très fortes. On pense que le mouvement doit être en train de se... Enfin, il y a des casseurs qui discréditent le mouvement, du moins. Et donc, il faut espérer que le conflit va se calmer et qu'on va arriver en France à des accords sans qu'il y ait trop de dégâts. Je voulais terminer avec cette émission en citant un livre très intéressant que je viens de lire de Mohamed Sadoun sur l'Algérie, puisque effectivement l'Algérie fait partie des pays qui bougent actuellement. C'est un pays où le peuple s'est... C'est un pays qui est très très complexe sur le plan politique, très difficile à comprendre, on fera une émission spéciale dessus. Mais parce qu'il y a beaucoup de forces en présence, il y en a toujours eu. Et puis il y a aussi une acculturation et un certain laisser-aller de la part de l'État, et donc qui date des indépendances en 1960, l'indépendance en 1962. Il y a un livre très intéressant qui n'est pas très long à lire, de Mohamed Sadoun, Algérie, La Nation entravée, qui est paru il n'y a pas très longtemps, que je conseille à chacun d'entre nous, qui date de 2019, qui est paru aux éditions de l'Aube. Il commence dans son introduction par citer les trois révolutions algériennes, 11 décembre 1960, 5 octobre 1988 et 22 février 2019. Donc trois manifestations drainant tout un peuple dans les rues d'Alger et quelques autres villes du pays, et des observateurs médusés que la conscience et l'unité d'un peuple que l'on disait la veille encore résigné à son sort. Le procédé est le même, une réappropriation de l'espace public par toutes les couches de la population. Les revendications voisines, l'affranchissement, la liberté, la vie sans entrave, l'adversaire immuable, l'ordre prédateur, qu'il soit le fait d'une puissance étrangère ou celui d'une caste locale. Ironie du sort, quasiment les mêmes slogans sont brandis, dont le fameux « un seul héros, le peuple ». Donc, je laisse nos chers auditeurs méditer sur cette phrase de Mohamed Sadoun. C'est l'introduction de son livre « Algérie, la nation entravée », édition de l'Aube, 2019. Un livre qui fait comprendre beaucoup de choses sur la complexité de la situation algérienne, qui, déjà avant la colonisation et pendant la colonisation, était noyée, et Dieu sait si l'administration française en a joué, sous les divisions et sous les différentes couches et les différents groupements d'intérêts qui tiennent à la fois des confréries religieuses, mais également des communautés culturelles, ainsi que des religions elles-mêmes, des croyances elles-mêmes, parce que quand je parle de quand je parle de confrérie religieuse, je parle de confrérie musulmane, mais il y a d'autres religions très présentes. Les trois monothéismes sont présents de manière très forte en Algérie. Ensuite, je pense aux différentes invasions qui ont marqué le territoire algérien, les invasions turques, les invasions arabes, ensuite la colonisation française, les conflits entre hommes et femmes, les conflits entre foyers culturels, je pense notamment à la berbérité qui est assez forte et qui n'arrive pas à lier les gens au-dessus des partis quelque part, alors qu'elle est elle-même la source très profonde d'une organisation de type démocratique et d'une tradition démocratique en Afrique du Nord et en Algérie plus particulièrement, qui n'arrive pas à prendre le dessus sur toutes les divisions qui ont été volontairement manipulées pour empêcher le peuple algérien de faire entendre sa voix au-dessus des partis et au-dessus des gouvernements. Et j'allais dire aussi au-dessus de l'armée elle-même. Et donc qui est au service de l'État. Je voudrais faire une émission dessus. Je ne sais pas si ça sera la semaine prochaine, parce qu'il y a d'autres urgences. On avait dit qu'on parlerait de la Pologne. On avait dit qu'on parlerait également des retraites, qu'on ferait un historique des retraites en France. Donc tout ça, ben, ça sera à partir de la semaine prochaine. Je ne vous dis pas encore. Je crée la surprise parce que des fois, j'annonce à l'avance des thématiques et puis parfois l'actualité me rattrape. Et je me sens quelque peu obligée d'en parler et de rompre avec le fil de ce que j'avais prévu. Mais cela dit, vous pouvez néanmoins, chers auditeurs, retrouver la cohérence, une certaine cohérence derrière les thématiques que j'évoque dans mes émissions en regardant sur les podcasts de Radio Galère 88.4, émission Mai de résistance. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine et puis je vous dis ben, à la semaine prochaine. Merci, au revoir.